Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La parole, la prise de parole et le meeting d'Éric Zemmour. Un an de reconquête, vous l'avez entendu sur CNews. Nos invités sont en place pour les débats dans quelques instants. Mais pour revenir, pour débriefer et synthétiser ce discours d'Éric Zemmour, Yoann Uzaï est en direct avec nous sur CNews au Palais des Sports de Paris. Que faut-il retenir de ces 45 minutes de discours, Yoann ?
Eh bien, écoutez, c'était clairement un discours de mobilisation, de remobilisation, une manière pour Éric Zemmour de tenter de raviver la flamme auprès des militants qui sont en ce moment en train, vous l'entendez peut-être, d'entonner la Marseillaise. Éric Zemmour qui a voulu faire passer un message, il n'est pas mort politiquement. Il faudra dans les prochains mois, dans les prochaines années, compter avec Reconquête qui sera de tous les combats politiques, a déjà prévenu Éric Zemmour, qui se tourne donc bien sûr naturellement vers les élections européennes. Prochaine échéance électorale dans notre pays et qui a évoqué aussi 2027, qu'il a donc déjà en ligne de mire. Vous l'avez compris, l'objectif pour lui vraiment c'était d'exister, continuer d'exister, alors même que les derniers scores électoraux qu'il a réalisés étaient particulièrement décevants et que politiquement il n'a pas de poids dans les institutions puisqu'il n'a pas réussi non plus à faire élire de députés lors des dernières élections législatives. Éric Zemmour qui l'a dit, j'ai pris beaucoup de coups dans ma vie, je me suis toujours relevé, sous-entendu, il se relèvera de ses défaites électorales passées pour mieux revenir lors des prochains scrutins. Éric Zemmour qui a poursuivi, quand on dit le vrai, eh bien, on se relève toujours. Il est persuadé d'avoir raison. Il est persuadé de poser le bon diagnostic sur la société. Et il s'est dit certain d'en récolter les fruits lors des prochains scrutins.
Merci Yoann, merci. En direct donc du Palais des Sports de Paris, un tour de table avec nos invités que je salue, qui ont assisté à ce discours en direct sur CNews. Jonathan Sixou, bonjour Jonathan, soyez le bienvenu. William T également et Shannon Seban, bonjour, merci d'être là. Nos débats dans quelques instants, mais un tour de table avec vous sur ce qui a été dit, notamment Jonathan Sixou, on a constaté qu'Éric Zemmour reste sur ses sujets de prédilection, évidemment, mais que l'Union des droites est un secteur et un chemin privilégié qu'il aimerait emprunter.
Il est le seul à le dire, en tout cas à droite pour le moment. Il l'a appelé de ses voeux. On a bien compris que s'il y avait union des droites, c'était avec lui à sa tête. On voit aussi qu'au RN, s'il y a union des droites, c'est avec Marine Le Pen à sa tête. Donc ça, c'est, je pense, un vœu pieux, bien que le calcul politique est en soi plutôt bon. Il a donné les exemples des Italiens, notamment, de Salvini et de Meloni, qui a pu être élu grâce à l'union des droites. Lui compte sur ça. Éric Zemmour, on l'a connu un peu plus convaincant et sur la forme et sur le fond, je dirais. Pour ce discours d'anniversaire, symboliquement, un an, il a raison de dire, c'est un fait, ça ne fait que commencer. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus péchu.
Ouais. Pour un anniversaire, il n'a pas été suffisamment pugnace ou convaincant, puisqu'il s'agit des un an de reconquête, son parti, William T.
Je pense qu'Éric Zemmour apporte des points intéressants. C'est-à-dire que la question qui est posée par votre journaliste, c'est est-ce qu'il est mort politiquement ou pas ? Non, il n'est pas mort politiquement dans la mesure où il l'utilise, il a une utilité du vote. C'est-à-dire qu'il apporte des thèmes dans le débat public. Qu'est-ce que dit Éric Zemmour ? Il est rentré en campagne il y a un an en disant il y a deux problèmes en France, c'est le grand déclassement et c'est le grand remplacement. Est-ce qu'il y a un problème de déclassement français ? Oui. Est-ce qu'il y a un problème de civilisation française ? Oui. Maintenant, la question qui est posée, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait que 7% si par cas, son constat est partagé par 50-60% de la population française. Le premier point, c'est que je pense que sa réponse est trop étroite. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il aborde ces deux points-là, il dit qu'il n'y a pas des problèmes économiques, sociaux, etc. Il dit qu'il y a uniquement un problème d'immigration et d'intégration, d'augmentation de la population musulmane dans la société française. C'est le premier élément. Le deuxième point que je vois, c'est le chemin pour y arriver. Il dit que le point essentiel pour arriver à son chemin, donc à l'élection présidentielle, c'est d'arriver à l'union des droites. Mais quand vous regardez, lui dit qu'il y a 57% qui se déclarent de droite. Mais le problème dans ces 57%, il a raison, c'est qu'il y en a plein qui votent Emmanuel Macron. Donc à partir du moment où vous avez une partie de ces 57% qui votent Emmanuel Macron, il ne peut pas réussir à gagner l'élection présidentielle s'il n'arrive pas à la fois à attirer les électeurs de LR, les électeurs du Rassemblement national et les électeurs d'Emmanuel Macron. Et donc du coup, pour survivre politiquement, Éric Zemmour doit modifier le speech qui a fait son succès. Et à chaque fois, vous avez le même problème dans tout type d'organisation. C'est-à-dire que quelqu'un réussit, il monte grâce à un speech. Et le problème, c'est que pour pouvoir se relancer et pour pouvoir viser des objectifs qui sont plus hauts, vous êtes obligé de vous réinventer. Et est-ce qu'il s'est réinventé par rapport à l'année dernière, quand vous comparez les deux mêmes discours, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce qu'il existera dans la scène politique? Oui. Est-ce qu'avec ce type de discours, il peut gagner la prochaine élection présidentielle? La réponse est non.
Le parti d'Éric Zemmour Reconquête pèse-t-il aujourd'hui sur la scène politique et pèse-t-il même à la droite du Rassemblement national, Shannon Seban?
Il y a une chose essentielle que je retiens de ce discours, moi, aujourd'hui, c'est que pour une fois, Éric Zemmour a fait preuve d'un optimisme sans limite. Là où le cynisme était autrefois la marque de fabrique d'Éric Zemmour, aujourd'hui, on le voit dans son discours, c'est beaucoup d'optimisme. Faut-il rappeler à M. Zemmour qu'il vient d'essuyer deux défaites, une première défaite lors des élections présidentielles avec un score de 7% au premier tour de l'élection présidentielle, puis aux élections législatives avec aujourd'hui zéro député qui siège sur le banc de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut rappeler à M. Zemmour. En revanche, effectivement, il y a une chose qui ne change pas, c'est son message. Toujours prôner la haine plutôt que l'apaisement. Toujours prôner la division plutôt que le rassemblement, toujours faire preuve d'autant de brutalité dans ses propos. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui risque de desservir à M. Zemmour. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, est-ce que Éric Zemmour pèse sur la scène politique? Je crois que la réponse est non, puisqu'encore une fois, le message que nous devons retenir de cette allocution, c'est un appel à l'union des droites. Et on l'a vu, il a d'ailleurs cité une figure, qui est celle de Giorgia Meloni en Italie, qui a réussi à se faire élire grâce à l'union des droites. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce discours-là d'Éric Zemmour, c'est plutôt un appel à l'aide. Il faut sauver le soldat Zemmour. Venez-moi en aide. J'ai besoin de vous pour pouvoir exister sur la scène politique.
Nos thématiques, nos débats qui commencent maintenant avec nos invités. Et dans l'actualité, on en parle régulièrement, mais je pense qu'on va en parler de plus en plus. Ce sont les coupures d'électricité cet hiver. Elles se rapprochent, elles pourraient avoir lieu. J'utilise le conditionnel. Une partie de la population pourrait être concernée par des délestages, mais certaines zones considérées comme critiques sont épargnées. En attendant de savoir si vous êtes ciblé, voici les bonnes pratiques pour éviter les désagréments. Mathilde Ibanez.
Train suspendu, signalétique à l'arrêt et établissement scolaire fermé. Un quotidien chamboulé pour les Français. Dans ce cas, le gouvernement conseille donc de limiter ses déplacements, d'anticiper la non-disponibilité potentielle de certains services, comme les distributeurs d'argent, portes de garage ou encore les accès aux immeubles. Et rappelle que si le réseau téléphonique est coupé, en cas d'urgence, le numéro 112 reste à disposition. Cette situation pourrait toucher près de 40% des Français avec des coupures réparties sur tout le territoire par petites zones. Les services prioritaires comme les hôpitaux, laboratoires ou encore les cliniques ne seront pas concernés. Même chose pour les personnes hospitalisées à domicile qui représentent près de 4000 patients. Le gouvernement conseille de se rendre sur le site RTE, monecowatt.fr, qui vous indiquera le niveau d'alerte. Si le signal est au rouge, il faudra avoir des gestes d'économie indispensables pour éviter ou limiter les coupures d'électricité.
Alors, on verra dans quelques instants, dans quelques secondes, qu'il y a des contradictions sur la certitude ou les garanties qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'ailleurs des coupures d'électricité cet hiver. Mais cette possibilité, tout de même, Jonathan Sixou, est-ce que vous auriez imaginé à un moment donné que la France puisse être soumise à des coupures d'électricité à un moment donné?
C'est ce que j'étais en train de me dire, Lionel, écoutant le sujet. Les conseils qui nous sont donnés sont parfaitement bien fondés, mais c'est hallucinant. On parle de notre pays, qu'on s'enorgueillit de classer encore entre la 5e et la 7e puissance. J'aimerais bien savoir comment marche ce type de classement, puisqu'on est dans une situation, rappelons-le, dans laquelle nous nous sommes mis tout seuls. C'est l'incurie qui entoure la gestion de notre parc nucléaire qui fait que nous sommes dans cette situation. Il y a 56 centrales nucléaires, en France. Sur ces 56, vous en avez 21 à l'arrêt, et sur ces 21, vous en avez une dizaine qui est à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'elles souffrent de corrosion. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'entretien qui a été fait, tout simplement. Donc maintenant, on en est à nous dire de ne pas ouvrir ou de laisser ouvert une porte électrique, une porte de garage ou un hall d'immeuble. C'est à proprement scandaleux. Il y a de quoi être vraiment agacé, d'autant que cette situation va révéler quoi d'autre? Va révéler aussi une inégalité des territoires, parce que comme vous l'avez dit, il y a des zones qui, elles, ne seront quasiment pas touchées. C'est le cas de Paris et de l'Île-de-France qui rassemblent des sites stratégiques pour le pays et sensibles. Ça va du ministère à l'hôpital, etc. Et donc, on ne peut pas débrancher un immeuble sans débrancher l'Assemblée, par exemple, pour faire simple. Et donc, on ne pourra pas le faire dans ces territoires-là. En revanche, il y a plein d'autres zones rurales, périurbaines, qui, elles, pourraient subir ces coupures.
On ne le fera pas en Corse non plus, je précise, parce qu'elle est reliée à l'Italie.
Bah vous l'apprenez.
Bah voilà. Donc en Corse, il n'y aura pas de coupure. Et en région parisienne ou à Paris, en effet, pour l'instant, ce sera sélectif. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité au quotidien que les Français vont peut-être vivre, Shannon Seban. Mais cette possibilité-là, cette éventualité, elle dégrade tout de même l'image de la France, non ?
On nous reproche souvent de faire preuve de transparence quand il s'agit d'informer les Français sur les risques qui peuvent être liés à ces coupures d'électricité. La stratégie qui est la nôtre pour faire face potentiellement à ces coupures d'électricité, c'est de privilégier la responsabilisation plutôt que l'infantilisation. C'est de privilégier l'anticipation plutôt que la procrastination. Voici les boussoles qui nous animent au quotidien. Donc, effectivement, il y a potentiellement des coupures d'électricité qui peuvent arriver. Le délestage, ce sera le dernier recours. Mais face à cela, il faut pouvoir jouer sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est l'anticipation. C'est l'appel à la responsabilisation, c'est cet appel à la sobriété énergétique qui avait été lancé par le président de la République le 14 juillet dernier. Un appel à la sobriété à la fois pour les particuliers, pour les entreprises, pour les grandes entreprises. Vous avez d'ailleurs près de 37 entreprises du CAC 40 qui se sont engagés à respecter cet appel à la sobriété énergétique, mais aussi pour les collectivités territoriales. Ensuite, il s'agit de pouvoir diversifier nos approvisionnements. Il s'agit par ailleurs de pouvoir sécuriser nos approvisionnements de gaz stratégiques. Et encore une fois, si tous ensemble, main dans la main, nous faisons preuve de bon sens, nous veillons à pouvoir avoir des consommations d'énergie qui soient raisonnables, eh bien, nous pourrons passer l'hiver sereinement. Donc, le message qui a été celui d'Emmanuel Macron ces derniers jours, le message qui est celui de Mme Agnès Pannier-Runacher ce matin dans le JDD, c'est de dire qu'avec un petit peu de bon sens, en faisant preuve de responsabilité dans notre consommation énergétique, eh bien, le délestage sera bien évidemment le dernier recours.
Mais Shannon Seban, vous parlez d'anticipation. On ne pouvait pas anticiper l'éventualité de coupure de courant, justement, plutôt que de se préparer, d'anticiper à la préparation qu'elle puisse arriver.
Mais c'est ce que nous faisons en ce moment même. Et nous travaillons d'ailleurs main dans la main avec EDF, avec Luc Rémont, qui vient d'être nommé à la tête d'EDF, pour s'assurer que les 20 réacteurs qui avaient été mis à l'arrêt pour cause de corrosion sur les 57 réacteurs nucléaires dont nous disposons sur le parc français soient remis en état et remis en service. Donc nous avons une vision qui est très globale. On a des paramètres, on a d'ailleurs une application, j'invite nos concitoyens à pouvoir la télécharger, l'application EcoWatt qui permet de suivre en temps réel l'évolution de la disponibilité de nos moyens d'électricité.
Oui, de savoir si on va être coupé ou pas.
Pour savoir si on sera coupé ou pas. Mais encore une fois...
Mais pour les personnes âgées, vous pensez que c'est pratique, ça, cette application, justement, qui, les personnes qui n'ont pas de téléphone mobile comme nous, qui n'utilisent pas la technologie comme nous.
C'est pour ça que...
Ces gens-là vont se retrouver entre 18h et 20h sans électricité, sans savoir.
Il y a un numéro d'urgence qui s'appellera le 112. Ces mesures de coupure d'électricité ne seront mises en place qu'en dernier recours. Et encore une fois, je le redis, le délestage sera le dernier recours.
Il y a plusieurs sons de cloche. Et vous cédez la parole, William T., qui sont assez contradictoires, puisque c'est vrai que le gouvernement nous prépare aux coupures. Et Emmanuel Macron déclarait hier qu'il n'y en aurait peut-être pas. On va relire les propos du président. C'est difficile de croire, effectivement, de savoir où se situer. Pas de panique, dit le président. On l'a entendu hier sur notre antenne. Il y a un travail qui est fait par le gouvernement pour préparer un cas extrême, qui est la nécessité de couper l'électricité quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. C'est-à-dire que même le président de la République nous dit peut-être qu'il n'y en aura pas des coupures. Mais... Alors à quoi tout ceci sert?
Mais madame le défend élégamment avec une langue spécifique aux macronistes. La vérité, c'est qu'en ce qui s'est passé en fait en juillet, à partir du moment où il y a la guerre en Ukraine, c'est que le gouvernement a fait en sorte de s'approvisionner en termes de gaz, mais n'a pas fait en sorte de sécuriser l'approvisionnement énergétique en termes d'électricité, dans la mesure où, comme l'a rappelé Jonathan, c'est que des centrales étaient fermées. Mais ce qui se passait, c'est qu'en fait, toute la stratégie d'Elisabeth Borne reposait sur un point. C'était qu'il ne fasse pas assez froid et qu'il y ait du vent pour faire tourner l'énergie renouvelable, etc., thermique, les panneaux solaires, etc. Donc à partir du moment où ils ont fait ça, ils n'ont pas anticipé, comme vous l'avez dit, mais ils ont hypothéqué l'électricité des Français sur le fait qu'il ne fasse pas si froid que ça et sur le fait qu'il y ait du vent. Donc c'est ça la stratégie du gouvernement qu'ils ont mis en place en juin dernier. Et le deuxième point qu'ils ont mal joué, c'est notamment du fait qu'ils n'ont pas prévu qu'il y aurait une augmentation de la consommation du fait qu'on maintienne un niveau de croissance économique. Parce que ce qui se passe dans les arbitrages du gouvernement, c'est qu'ensuite, ils poursuivent des objectifs dits contradictoires. Il y a Bercy qui veut faire en sorte qu'on ait un niveau économique important. Et pour avoir un niveau économique important, il faut qu'il y ait une consommation d'énergie assez importante. Et de l'autre côté, vous avez Pannier Runacher, qui est patronne du ministère de la Transition énergétique, qui veut faire en sorte, et poussée par son administration, de provoquer les Français vers la décroissance pour consommer moins d'énergie. Et du fait qu'on consomme moins d'énergie, permettre de remplir les accords de Paris et la transition énergétique. C'est ça qui se passe en réalité. Et il vous explique ça avec une novlangue, non, pas de panique. Quand quelqu'un vous dit pas de panique, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à paniquer, ça va être la catastrophe absolue. Ce qu'on attend, en fait, le gouvernement repose sur un seul truc. Un, ils espèrent qu'il fasse un peu plus chaud qu'actuellement. Ils espèrent, deux, qu'il y ait du vent. Et toute la stratégie du gouvernement repose uniquement dessus. Ils n'ont pas pensé à pouvoir relancer certaines centrales nucléaires parce qu'en fait, on n'avait pas prévu le coup.
Ils sont en train de faire.
Non, mais on n'avait pas prévu le coup. Ça veut dire que vous avez la moitié des réacteurs. Vous demandez à tous les patrons de l'autorité de sûreté nucléaire. Ils vous disent que pour relancer les centrales nucléaires, il faut augmenter le niveau de risque. C'est tout simplement c'est ça qui joue.
Mais donc
ça veut dire que vous hypothéquez et vous faites
un arbitrage
entre la sûreté des centrales nucléaires et la relance. Et c'est pour ça que pour l'instant, ils ne relancent pas les centrales nucléaires. Et sur le deuxième élément, sur la question de l'augmentation du coût de l'électricité, qui je pense est le point le plus important, c'est que Macron ne veut pas partir au bras de fer avec la Commission européenne et avec la politique énergétique allemande. Et c'est tout ça qui joue.
Je vais laisser
en fait.
Shannon Seban répondre et Jonathan Sixou va pouvoir également développer. Mais pour soumettre à votre réflexion dans notre débat, j'aimerais vous faire écouter le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, puisque les écoles peuvent être concernées, évidemment, par des coupures d'électricité. Il est probable que certaines écoles ferment provisoirement, peut-être une matinée, s'il y a des délestages, notamment dans leur commune et dans leur ville. Il s'y prépare donc, et vous allez l'entendre, en effet, il dit « je ne suis pas météorologue », parce que pour lui, la fermeture provisoire d'écoles, pourquoi pas, est envisageable, mais c'est improbable.
Je ne suis pas prévisionniste météo, ça dépend largement des vagues de froid. J'espère que cela ne sera pas le cas, c'est d'ailleurs improbable. Mais il faut
improbable, vous dites. Hein.
C'est improbable parce qu'il faut une conjonction de critères, y compris le critère météorologique, qu'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle. Mais nous devons envisager cette possibilité néanmoins. Donc si jamais les délestages devaient être programmés, à ce moment-là, il faut évidemment organiser le système scolaire en conséquence dans les secteurs bien précis qui seront concernés.
Le ministre Pape Ndiaye, il le dit, Shannon Seban, en fait, il n'est pas météorologue. Donc tout dépend de la météo, tout dépend du temps qu'il fera au mois de janvier, au mois de février.
Mais bien évidemment, et ce serait tout à fait hypocrite de notre part que de vous dire qu'on fermera les écoles, on mettra en difficulté les hôpitaux, on programmera des coupures d'électricité de 10h à midi entre le 15 décembre et le 31 janvier. C'est tout à fait hypocrite. À l'heure actuelle, mais nous avons des paramètres.
C'est pas l'anticipation. Donc, vous pouvez pas baser toute la stratégie de la France.
On a aujourd'hui des paramètres
en termes électriques sur la température météo.
Attendez, laissez-la développer et je vous céderai la parole après.
Non, mais le véritable point, c'est celui-là. Vous pouvez pas bâtir la stratégie de la cinquième puissance mondiale sur la candidature.
Shannon, c'est bon, allez-y, terminez.
Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Donc, on a des paramètres et aujourd'hui, il faut pouvoir se préparer au scénario du pire. Avec ces paramètres, avec les paramètres dont nous disposons à l'heure actuelle, on a des leviers sur lesquels nous pouvons agir et je vous le redis, c'est la diversification de nos approvisionnements, la sécurisation de nos stocks de gaz stratégiques et un appel à la sobriété énergétique. Cet appel à la sobriété énergétique a permis d'ores et déjà de porter ses fruits. La semaine dernière, nous avons d'ores et déjà réussi à réduire de 7% nos consommations énergétiques en France.
Oui.
Donc encore une fois, ça prouve que quand on donne les moyens à nos concitoyens, à nos entreprises et à nos collectivités locales de pouvoir réduire leur consommation énergétique, eh bien nous pouvons éviter des délestages.
On demande tout de même aux Français de ne pas utiliser l'ascenseur parce qu'il peut y avoir une coupure électrique.
Voyez,
non, mais c'est ça, c'est un
ça.
Exemple parmi
tant d'autres.
Bien sûr.
De la même façon,
oui, mais
vous voyez,
c'est
de
du bon sens. Mais tout de même, quand vous habitez au 7e étage et qu'on a plus de 70 ans, on prend les escaliers.
Et ici, il ne s'agit pas de tomber dans un. On ne dit pas que la France devient le tiers-monde.
Non, si, justement, c'est ça le problème.
Eh bien, non, c'est faire preuve de bon sens.
Sur l'électricité, en tout cas.
Mais le bon sens n'est pas lié.
Alors, Jonathan Sixou.
Le bon sens n'est pas lié à la tiers-mondisation d'un pays, mais un pays qui en est à dire aux gens, prenez plutôt l'escalier que l'ascenseur, c'est un signe de tiers-mondisation, parce qu'on finit progressivement à avoir, à atteindre un niveau de vie plus bas que celui qu'on avait auparavant. On pourra l'appeler changer des habitudes, avoir un comportement vertueux, etc. Il y a toujours tout un discours très bien fondé qui l'accompagne, mais ça ne change pas la nature même du changement que certains appellent un déclassement. Les propos de Pape Ndiaye sont effrayants. Faire payer à des enfants, l'éducation de nos enfants, faire payer à l'éducation... Lui, il dit qu'il n'est pas Miss Météo, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas, on ne peut pas faire payer aux enfants...
Et qu'il se prépare à fermer les écoles tout de même.
...des décisions politiques déplorables. Parce que cette situation, elle n'est due qu'à des décisions politiques. Enfin, un mot encore, tout ça est prévu et anticipé, pour le coup, depuis fort longtemps. Écoutez, réécoutez l'interview politique d'Emmanuel Macron, l'interview du 14 juillet. Il nous parle déjà des risques pour cet hiver. Tout est déjà dans cette interview du 14 juillet.
Moi, je retiens la fin de l'abondance, notamment.
Et, aussi. Ça, c'est venu également.
Un petit peu plus tard.
Et dans cette même interview, et il est revenu ensuite plusieurs fois là-dessus, c'est au nom de la solidarité européenne que nous allons peut-être avoir des problèmes d'électricité. Parce que sans avoir cette solidarité européenne, pour laquelle il n'y a pas de réciproque d'ailleurs en matière énergétique...
On donne à l'Allemagne, on ne récupère rien.
Exactement. Sans cette fameuse solidarité européenne, nous pourrions ne pas avoir de coupure d'électricité.
J'aimerais qu'on avance, parce qu'il y a des crises successives, si on peut appeler ça des crises, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, pour la crise Covid ou la crise sanitaire, ça existe véritablement et j'aimerais avoir votre sentiment. Avec la 9e vague de Covid qui arrive, faut-il réintroduire le masque obligatoire dans les transports? On en parle déjà depuis quelques jours, on en parlait le week-end dernier déjà dans cette émission. Jusqu'à présent, le gouvernement s'est refusé à imposer toute contrainte sur le sujet, malgré le rebond épidémique couplé aux épidémies de grippe et de bronchiolite. Les autorités commencent à le suggérer de plus en plus, les autorités scientifiques et médicales notamment. Voilà ce que disait le ministre aujourd'hui, François Braun, à ce sujet concernant le masque obligatoire, notamment dans les transports.
Ce qui est raisonnable, si on continue à augmenter les contaminations. Je vous l'ai dit, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. Actuellement, ce n'est pas le cas.
Je le disais, les autorités scientifiques, notamment le COVAR, le successeur du conseil scientifique, Shannon Seban, suggère, plaide pour un retour en force du masque. Là aussi, ça peut être du bon sens, en effet. Mais les Français sont-ils prêts à accepter qu'on leur demande encore de porter un masque?
Je crois que ce que les Français attendent, c'est qu'on leur laisse un petit peu de liberté et qu'on ne leur prenne pas la main de façon systématique à leur dire ce qu'ils doivent faire. Et ça, je pense que c'est la ligne qui est celle de notre gouvernement, qui est de prévenir quand il y a des risques. Vous savez, gouverner, c'est aussi anticiper et c'est aussi faire preuve de transparence. Donc c'est ce que nous faisons, nous suivons de très près l'évolution de la situation. Effectivement, la semaine dernière, nous avons eu une augmentation assez importante du nombre de cas de personnes qui ont été contaminées par la Covid, hein, une augmentation de 45%. Vous avez en parallèle d'autres maladies qui continuent à prospérer au sein de notre pays. Je pense à la bronchiolite, je pense à la grippe et autres. Donc, l'appel qui a été fait par M. Braun ce matin, notre ministre des Solidarités et de la Santé, c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, les scientifiques recommandent fortement le port du masque, qu'à l'heure actuelle, nous recommandons aux Français de continuer à porter le masque, et d'ailleurs, bon nombre d'entre eux continuent à porter le masque de façon tout à fait volontaire dans les transports, mais notre message, c'est celui d'une recommandation plutôt que d'une injonction. En revanche, il est vrai que si la situation venait à se détériorer davantage, et c'est le message qui est porté par M. Braun ce matin, eh bien, il n'aura pas la main faible, sa main ne tremblera pas, pour reprendre ces termes, pour faire de ce port du masque une injonction et une obligation. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas une décision. Là, on parlait d'anticipation tout à l'heure, William T. Il ne faut pas anticiper donc sur le port du masque obligatoire. J'aimerais qu'on jette un coup d'œil, tout en vous écoutant, sur ce qui se fait à l'étranger, notamment. Nos voisins européens, qui, pour beaucoup... porte encore le masque ou oblige la population à porter le masque. Regardez, c'est le cas en Espagne, notamment, William T.
Mais non, il y a deux points. Il y a un point qui est sur la crise et il y a un point qui est politique. La vérité sur le plan politique, c'est qu'en fait, ils pourraient le faire, mais ils n'ont pas l'assise politique pour le faire. La majorité, le gouvernement ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la situation de 2020-2021 où ils avaient la majorité absolue, que Macron convoquait un conseil de défense, qui prenait des décisions ad hoc, sans que la grande partie du gouvernement soit au courant et que l'Assemblée nationale ratifiait. Là, il imposait un tel type de mesure, conseil de défense, etc., de toute façon, l'Assemblée nationale pourrait voter une motion de défense pour faire tomber le gouvernement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, sur le plan scientifique, Je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre les décisions si par cas c'est rentable avec un coût-bénéfice sur l'ensemble des points de la société. Souvent, ce qu'on a fait depuis le début de la crise sanitaire, c'est qu'on a pris uniquement le volet scientifique. Il faut prendre en compte l'ensemble des volets, économiques, sociaux, etc. Est-ce que la population française, qui est fatiguée après 2 ans de crise sanitaire, est prête à accepter le retour du masque obligatoire à l'heure actuelle, alors que le risque épidémique n'est pas si élevé que ça? Pour l'instant, c'est non. Je pense que le gouvernement a raison de temporiser, le temps d'attendre de voir si par cas on arrive à des points de seuil qui soit beaucoup plus important. Et une fois qu'on arrive à des points de seuil beaucoup plus importants, si par cas il faut prendre une décision, ben, il faudra la prendre.
Mais on est toujours, Jonathan Sixon, en tout cas le gouvernement, quand il s'agit de décisions qui concernent la santé, qui concernent la prévention, est toujours partagé entre la fermeté et la liberté, de peur qu'on le reproche justement de porter atteinte à cette liberté.
Bon, on l'a bien vu ces dernières années, effectivement. Actuellement, le gouvernement fait le bon choix de se reposer sur la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. C'est de l'ordre du bon sens, encore une fois, si on est malade ou si on a des symptômes ou si l'on craint de tomber malade, que de mettre un masque quand on est dans un lieu clos et en particulier dans les transports en commun. Là où ça deviendrait franchement embêtant, c'est si on revient au bâton, à l'obligation, aux interdictions. On sait que c'est toujours dans l'air.
Le conseil scientifique suggère.
Mais vous avez remarqué que le conseil
qu'il faudrait le porter dès maintenant. Il faudrait obliger le port du masque dès maintenant.
Vous avez remarqué, souvenez-vous, que le conseil scientifique, Emmanuel Macron, faisait ce qu'il voulait de ses décisions, puisqu'il le suivait quand ça l'arrangeait, ses recommandations. Et quand le conseil scientifique voulait maintenir tout le monde enfermé, Emmanuel Macron a dit non, là, il faut que
regardez
les Français
retournent travailler. Brigitte Autant, dans le JDD ce matin, Jonathan Sixou, c'est le cobard, c'est le successeur du conseil scientifique. Nous demandons à renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrières. C'est vraiment désolant que les Français ne se vaccinent pas assez. Il y a le masque, les gestes barrières et les vaccins aussi.
On a quand même, avec les 2 ans qui viennent de s'écouler, quelque chose qui s'appelle de l'expérience. Il est assez regrettable de voir qu'après ces 2 années passées, on ne centralise pas, on ne cible pas davantage ces campagnes de sensibilisation envers qui ? Envers les personnes âgées, fragiles, qui ont des maladies ou des défaillances physiques
mais qui font
qu'elles
sont
en première ligne.
Pas ces maladies.
Pourquoi ? Mais on sait très bien aujourd'hui qu'un enfant de 15 ans a beaucoup moins de chances de finir à l'hôpital que quelqu'un qui se trouve en surcharge pondérale et qui a 85 ans. C'est avéré désormais. Donc pourquoi n'y a-t-il pas une obligation vaccinale pour des personnes d'un certain âge, pour des personnes dans certaines situations ? Déjà, vous réduisez considérablement le risque de transmission de la maladie en respectant ces choses-là que l'on sait. Pas besoin de faire des campagnes qui s'adressent à tous, absolument. Mais souvenez-vous, quand les autorisations de sortie, etc., on meurt aussi de quoi ? De notre égalitarisme. Empêcher les gens d'aller au bord de la mer, parce que même si leur maison était sur la plage, parce que derrière, ceux qui n'avaient pas la vue sur la mer ne pouvaient pas aller sur la plage. C'est tout ça, vous voyez, pour que tout le monde vive et subisse les mêmes lois. Parfois, ça a des limites.
On marque une petite pause en 90 minutes info. On se retrouve dans quelques instants. Un point sur l'actualité et d'autres débats à venir avec nos invités. À tout de suite. Avec nos invités, les débats qui continuent, Jonathan Sixou, William T, Shannon Seban. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
Éric Zemmour tente de raviver la flamme de reconquête. L'ancien candidat à la présidentielle a tenu un discours cet après-midi au Palais des Sports de Paris. Un discours à l'occasion du premier anniversaire de son parti Reconquête. 4000 personnes étaient présentes. Éric Zemmour a notamment appelé ses militants à ne pas être pessimistes. Continuez, ne baissons plus les yeux. Nous construisons nos victoires pour les prochaines élections à venir, a analysé le président du parti Reconquête. L'Iran annonce la fin de la police des mœurs. Cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter le code vestimentaire dans le pays. La police des mœurs est notamment à l'origine de l'arrestation de la jeune Mahsa Amini, une kurde iranienne arrêtée pour un voile mal porté. Sa mort en détention le 16 septembre dernier a provoqué une vague de contestation qui perdure depuis près de 3 mois. Le français Patrick Tambay est mort à l'âge de 73 ans. L'ancien pilote de Formule 1 souffrait de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années. Le pilote a notamment remporté 2 Grands Prix au volant d'une Ferrari. Il a également couru pour les écuries McLaren et Renault.
Les débats avec nos invités à présent dans 90 minutes info week-end et la recrudescence des violences de mineurs. Dernière en date, une agression au couteau d'un adolescent à Sarcelles. Mais quelques jours auparavant, il y avait eu une attaque au marteau également sur l'ensemble du territoire. Les policiers et les habitants s'inquiètent. Les forces de l'ordre alertent. Jeanne Cancard.
Le parvis de ce collège de Sarcelles dans le Val-d'Oise est le dernier théâtre en date de violences entre jeunes.
Ce vendredi, à la sortie des cours, un élève de 13 ans a été agressé au couteau. Quelques jours plus tôt, c'est à Coignières dans les Yvelines qu'un adolescent de 14 ans a été tué à coups de marteau lors d'une rixe entre bandes rivales. Le 11 novembre dernier à Paris, c'est un garçon de 16 ans qui perd la vie après avoir été blessé par arme blanche lors d'affrontements avec d'autres jeunes. Des scènes de violence devenues banales pour certains adolescents, selon ce policier.
Dès qu'on a un problème, on sort les armes et on vient se battre avec la partie adverse. Ça veut dire qu'on n'a plus d'autre notion de la violence et de la vie en règle générale. Donc on est sur des gens qui sont des jeunes qui sont complètement déconnectés.
D'après ce policier, les individus concernés sont de plus en plus jeunes et n'ont pas peur des conséquences judiciaires.
On s'aperçoit aujourd'hui que toute cette impunité qui s'est créée avec des manques de sanctions pénales fortes génère effectivement un sentiment d'impunité dans les quartiers et on fait tout et n'importe quoi aujourd'hui. On ne fait plus appel ni aux services de police, ni voilà, on ne vient pas déposer plainte. Il veut régler ses comptes et c'est systématiquement de la violence.
Sur l'ensemble du territoire, la majorité des rixes entre jeunes ont lieu en Île-de-France où des renforcements ponctuels d'effectifs de police tentent d'endiguer le phénomène.
On le constate notamment quand on échange avec les policiers, les mineurs, les ados sont de plus en plus violents. William T. Pourquoi ? Quelle est votre explication, votre analyse ?
C'est à l'image de toute la société. C'est-à-dire que petit à petit, quand avant, il y a une trentaine, quarantaine d'années, quand vous aviez un différent, vous faisiez de façon verbale, vous faisiez à l'amiable. À la rigueur, le ton montait un peu, vous ne sortiez pas un couteau, etc. Ensuite, après, c'est venu aux mains. Ensuite, après, c'est venu directement à l'arme blanche. Et moi, je le vois parce que dans notre équipe, on a différentes générations. On n'a pas vécu la même chose au collège et lycée et également dans les études supérieures. Donc moi, je pense qu'on assiste petit à petit à ce que j'appelle une barbarisation de la société. C'est-à-dire qu'une petite partie de la population, il y a 90 à 95% de la population qui se comporte parfaitement bien. Il y a une petite partie de la population qui se dirige vers une barbarisation. Et ça veut dire que est-ce que l'état de droit, est-ce que les règles actuelles sont adaptées face à cette barbarisation de la société ? Quand vous avez un jeune qui utilise une arme, un couteau, etc., pour régler ses différends avec une autre personne, on pourrait se dire, normalement, le jeune ne devrait pas aller en prison. Mais est-ce que cette personne, on peut la laisser dans la société libre nature ? Est-ce que cette personne n'est pas nuisible à la société ? Est-ce que cette personne peut se réinsérer ? Donc je pense qu'il faut remettre à plat le code civil, remettre à plat le code pénal et redéfinir l'état de droit par rapport à l'évolution de la société. Quand vous avez une barbarisation, il faut écarter les personnes qui sont à risque de barbarisation, sinon ça se contamine, c'est comme un virus.
Donc changer la législation les sanctions contre les mineurs, notamment.
On a parlé du Covid tout à l'heure, mais je pense qu'il faut confiner les barbares, c'est-à-dire qu'il faut les mettre en dehors de la société pour pas qu'ils se propagent à d'autres personnes. Parce que quand vous avez une personne qui règle ses différends avec un couteau, la personne en face subit un couteau, et comment va réagir la famille de la victime ? Eh bien tiens, il faudra riposter, il faudra se défendre tout seul. Et donc du coup, après, vous avez une contamination de la société qui se répand à partir du moment où l'État a été trop laxiste sur le premier acte. Et donc, il faut répondre directement. Et une fois que vous avez des barbares, vous les écartez de la société. C'est les principes du droit de Beccaria, c'est la base.
Si les violences avec les mineurs, les jeunes, Shannon Seban, se banalisent finalement, est-ce que c'est parce qu'il y a une perte de sens ? Est-ce que c'est un problème d'éducation ? On en parle souvent à la bon dos, l'éducation des parents notamment.
Vous savez, moi, je suis élue en Seine-Saint-Denis.
À Rosny-sous-Bois,
dans un département qui est réputé pour être un des départements les plus jeunes de France métropolitaine, avec notamment Mayotte, hein, 36% de la population a moins de 25 ans. Donc je suis au quotidien en contact avec des jeunes de moins de 30 ans. J'ai d'ailleurs moi-même moins de 30 ans. Donc j'arrive aussi à mesurer, à prendre le pouls du terrain et à comprendre le pourquoi du comment on a aujourd'hui une telle montée des violences et effectivement... d'une barbarisation, pour reprendre vos termes, en tout cas d'une banalisation de la violence qui se propage dans certaines parties de notre territoire. Je crois effectivement que l'éducation est un levier formidable. C'est par l'éducation qu'on arrivera à résoudre ces maux. Je pense qu'il faut traiter le mal à la racine. Donc je crois effectivement au pouvoir de l'éducation. Quand vous allez notamment dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, eh bien, il faut pouvoir aller... accrocher ces jeunes décrocheurs qui parfois quittent le circuit scolaire. Donc il y a effectivement un premier levier qui est celui de l'éducation. Et puis ensuite, il y a la nécessité de pouvoir renforcer la présence de nos forces de police sur le terrain. Donc, et ça, c'est effectivement un problème qu'il faut pouvoir régler. Donc on s'y est engagé. Gérald Darmanin va doubler les forces de police dans les transports en commun. Il s'est engagé à créer près de 8500 postes de policiers et de gendarmes d'ici à 2027. Dans les zones rurales, par ailleurs, parce qu'on les oublie souvent, à créer 200 brigades de gendarmerie supplémentaires pour pouvoir justement pallier ce manque d'effectifs. Donc il y a deux leviers sur lesquels nous pouvons agir. à la fois une présence accrue de nos forces de l'ordre sur le terrain et puis effectivement l'éducation sur lequel
l'éducation, il faut cela veut dire pour vous, Shannon Seban, se substituer à l'éducation familiale des parents.
Non, venir en complément de l'éducation.
Mais si cette éducation parentale a failli, comment fait-on pour combler les vides?
On comblera jamais l'éducation qui est donnée au sein du foyer. On comblera jamais et l'école ne viendra jamais se substituer ou remplacer l'éducation qui est donnée par les parents. En revanche, elle peut venir compléter cette éducation, celle qui est donnée par les parents, parce qu'effectivement, les élèves passent une grande partie de leur journée au sein des écoles et l'objectif, c'est de pouvoir leur donner des valeurs universelles. Moi, je crois beaucoup en l'enseignement des valeurs de notre République que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Ce sont des valeurs fondamentales qu'il faut continuer à inculquer pour éviter cette banalisation de la violence.
Jonathan Sixou, votre point de vue justement sur l'éducation, sur la force de l'éducation, parce que l'État ne peut pas tout faire, il ne peut pas se substituer en permanence, que ce soit aux familles, aux parents, à ceux qui sont des fauteurs de troubles. On ne peut pas toujours trouver des solutions et mettre des policiers ou des professeurs derrière chaque jeune Français.
Quand vous voyez, mais l'éducation, elle commence à la maison et elle reste à la maison. À l'école, c'est ce qu'on appelait dans le temps l'instruction et l'apprentissage. Et on voit bien les dérives ahurissantes qui ont lieu au sein même des foyers. L'un des jeunes qui s'en est pris à cette femme de 89 ans à Cannes, il y a quelques semaines. Le père de l'un des garçons en question a fait un faux témoignage à la police pour couvrir son fils. Moi, la question que je me pose en entendant régulièrement ces histoires, c'est comment vieillit-on quand à 17 ou 19 ans, on a donné un coup de marteau mortel.
Pardonnez-moi,
dans la
14
tête.
Ou 13 ans.
14,
là, on
13
parle
ans.
De 14 ou 13
Vendredi,
ans.
Vendredi, on a eu à commenter aussi un enfant de 10 ans qui s'est attaqué à sa maîtresse, qui n'a pas pu se défendre parce qu'elle n'allait pas frapper un enfant. Je me demande comment vieillit-on et comment quel genre de citoyen ça devient, ces gens-là. D'autant qu'il y a cette banalisation, il y a cette impunité qui n'est pas un sentiment, qui est une réalité, qui est quasiment une réalité juridique également. Et vous savez, on parle souvent des territoires perdus de la République. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est bien dramatique encore, parce que c'est partout, ce sont les individus perdus de la République. Il y en a dans les zones rurales, il y en a dans des zones urbaines, il y en a dans ce qu'on appelle joliment des quartiers, il y en a dans des cités, il y en a partout. Et ça dessine une nouvelle France. Et je ne sais pas, mais c'est une vraie question que je me pose et je n'ai pas de réponse, comment sauver ces individus, ces esprits perdus de la République aujourd'hui?
En les réinsérant dans le milieu de l'emploi, en leur donnant les conditions favorables pour pouvoir se réinsérer durablement sur le marché de l'emploi, parce que la plupart de ces jeunes aujourd'hui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir travailler. Donc, à la fois en leur fournissant le l'éducation...
Est-ce que c'est vraiment unanime? L'envie de travailler.
On tombe aujourd'hui, malheureusement, je trouve, dans un discours et dans une certaine stigmatisation des jeunes de banlieue, des jeunes de quartier. Il faut arrêter de stigmatiser.
C'est là qu'ont lieu ces faits, ces crimes.
Ne stigmatisons pas de façon systématique.
Mais pourquoi c'est de la stigmatisation dès lors que
ces jeunes-là ne demandent qu'à pouvoir travailler, qu'à pouvoir vivre d'une activité pérenne et durable, qu'à pouvoir se réinsérer sur le marché
de l'emploi. Tous les jeunes de ces quartiers-là, c'est ce que je disais, il y en a 5 qui sont dont la difficulté d'insertion est très forte. Et je ne suis pas sûr qu'ils veulent forcément bosser. La preuve, sinon vous n'auriez pas des coins de trafic très importants avec des trafics de drogue, etc. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un chemin parallèle du chemin républicain.
Mais si
et vous
ne
répondez
chemin...
pas aux questions, parce que 95% de la population s'intègre parfaitement. Et même dans ces quartiers-là, la difficulté, c'est les 5% de types qui viennent foutre le bordel dans le pays.
Mais notre rôle aussi, c'est de pouvoir leur donner et de faire en sorte que ces 5%-là dont vous parlez, M. Taille, aient envie de s'insérer de façon pérenne et durable sur le marché de l'emploi. C'est aussi ça notre défi. C'est aussi ça le devoir de notre République.
Mais ils peuvent s'insérer. Ils ont fait le choix de ne pas le faire.
Ils n'ont pas fait le choix. On ne choisit pas de se mettre dans la délinquance et on ne choisit pas de faire du trafic de
En général, il y a de l'argent plus facile à faire sur les points de deal. Vous pouvez d'ailleurs le constater aussi dans votre département.
Mais bien évidemment, mais si ces jeunes-là ont fait le choix justement de... Comme vous le dites, on fait le choix de l'argent facile, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à s'insérer sur le marché de l'emploi et avoir un travail qui paye bien.
Mais sont-ils récupérables désormais ?
Et l'objectif, effectivement, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir un travail qui paye mieux. Donc là, on peut tomber sur tout un débat autour de la revalorisation des salaires et de la valeur travail.
Très, très difficile rapport temps de travail et salaire. C'est très, très difficile de pouvoir rivaliser avec le trafic de drogue.
Évidemment.
Que les choses soient claires. Vous parliez de Cannes tout à l'heure. Je vous cède la parole, Jonathan Sixou, mais j'aimerais qu'on qu'on évoque ce sujet qui est important et qui est vraiment en corrélation avec notre thématique. On se souvient de cette agression sauvage de cet octogénaire par des mineurs. C'est une agression qui a fait le buzz parce qu'elle a été filmée, elle a été diffusée sur les réseaux et au nom du principe « chacun est responsable de ses enfants », on en revient à l'éducation, la mairie de Cannes a retiré l'emplacement de marché à un commerçant dont le fils, adolescent, a été reconnu coupable de cette agression et de ce vol avec violence. Les explications avec Célia Judas.
Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs mis en cause dans l'agression de l'octogénaire à Grasse au mois d'août, s'est vu retirer l'attribution de sa place de marché de la Boca à Cannes. Monsieur Azari y occupait un emplacement une demi-journée par semaine qui lui a été retiré par la municipalité quelques jours après les faits reprochés à son fils. Une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle. Expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence, il a également fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, après des sommes indûment versées. En cause, l'oubli de déclaration de l'activité de M. Azari. Le maire de Cannes, David Lisnard, avait fait part de son indignation et demandé un renforcement des mesures à l'encontre de la délinquance juvénile. La famille sera reçue lors d'une prochaine commission d'attribution pour les places au marché de la Boca de Cannes. La municipalité prévient qu'elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
On est vraiment dans le cas, là, Jonathan Sixou, de l'éducation familiale, de l'éducation des parents. Et également peut-être d'une justice à deux vitesses quand il s'agit de mineurs, parce que ces jeunes-là sont mineurs justement, et pour l'instant, enfin en tout cas beaucoup, estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment sanctionnés. Pour l'instant, ils sont mis dans un centre de détention, mais ils ne sont pas en prison, et ils attendent leur appel apparemment en justice.
C'est là où il y a quelque chose qui nous fait penser, qui nous fait croire qu'on marche sur la tête. Ils étaient trois, hein. Il y en avait deux qui ont porté les coups et le troisième qui filmait.
Lui n'a pas été condamné.
Il n'a eu aucune condamnation. Et les deux qui ont reçu, c'est un peu bizarre, c'est ce nouveau droit de l'enfance. Il y a une première audience qui donne une décision, mais qui n'est pas appliquée immédiatement. Vous avez 14 ans, quel que soit le crime ou le délit que vous avez commis, la sanction que vous êtes susceptible de recevoir n'est pas immédiate. On va leur donner une réponse d'ici 6 à 8 mois, je crois. Et qu'ils vont, ces 6 à 8 mois, passer dans un centre fermé, me semble-t-il. Là aussi, les informations ne sont pas très claires concernant ces deux jeunes-là. La réaction de la mairie est exemplaire. Ça montre bien où est la fermeté, puisqu'il n'y en a nulle part ou pas beaucoup en face. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure le syndicat de policiers que vous aviez interviewé. Il a prononcé un très bon mot et qui explique, qui ne résume pas, mais qui explique pas mal de choses. Il a dit que ces jeunes étaient déconnectés. Et effectivement, il y a une déconnexion avec le réel qui est assez inquiétante. J'y vois pour ma part une certaine responsabilité du côté de la drogue. On sait que je pense qu'il y a un lien à faire entre la consommation excessive de drogue et de plus en plus tôt et de plus en plus en quantité importante chez les jeunes et le fait que on peut frapper, battre, voire tuer dès qu'il y a une contrariété face à soi.
Mais William, t'es le principe de chacun est responsable de ses enfants et donc une mairie qui va sanctionner le père directement alors que il n'a pas du tout été jugé, même impliqué dans l'affaire de l'agression de la vieille dame.
C'est pour ça que dans l'intervention précédente, je disais que le droit actuel n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'on est sur le principe d'individualisation des peines. Mais qui est responsable de l'éducation de son enfant ? Est-ce que c'est l'État à travers l'éducation nationale et les écoles ? Ou est-ce que c'est les parents qui sont responsables de l'éducation ? Si on part sur la répartition classique, instruction pour l'école et éducation pour les parents, c'est par cas les parents qui seraient responsables du coup par l'éducation. Et donc il est normal que lorsqu'un enfant est mal éduqué, ce soit le parents en question qui soient payeurs en l'occurrence. Et puis, ce n'est pas uniquement le seul fait qui est reproché à cette famille. 61 000 euros d'arriérés par rapport à la caisse d'allocation familiale, plus une multitude de faits. Parce que dans le débat tout à l'heure, on disait que ces enfants-là étaient innocents, etc. Mais venez dans n'importe quel tribunal correctionnel, allez à n'importe quelle chambre, vous regardez tous les faits. Souvent, ils ont 18 ans, 25 chefs d'inculpation agression, vol, racket en bonne organisée, etc. Et n'importe quel syndicat de police vous dira exactement la même chose. Et la question qui se pose, c'est comment faire en sorte de les réinsérer dans la société. S'ils vont faire un détour en prison, eh ben ça va être l'école du crime, eh ben ça va être une nouvelle concurrence pour encore faire de nouveaux crimes en sortant. Et je pense que le seul moyen, c'est en mettant la pression sur les parents. Parce que qu'est-ce qu'ils respectent en l'occurrence ces enfants? C'est leurs parents. Et une fois que leurs parents vont dire « Attention, tu fais encore une bêtise, ça va être torgnole en rentrant à la maison », eh ben vous inquiétez pas, ils vont se calmer délicatement.
C'est interdit par la loi, hein, la claque.
C'est pas grave, ils le feront quand même. Je pense qu'ils ne gêneront pas de ce principe-là.
La fessée est interdite, c'est ça.
Et c'est comme ça que ça fonctionne concrètement dans ces familles-là. Et n'importe quelle personne qui a côtoyé ces milieux-là vous diront exactement la même chose. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent d'une immigration spécifique où ils sont descendants d'immigrés. Et donc, la culture traditionnelle familiale est plus forte. Et ils ont une décorrélation complète entre le pays d'origine, qui est sur une culture très forte, traditionnelle, familiale, où l'ordre de l'État est respecté, et ensuite le laxisme généralisé en France. Et donc, du coup, quand vous êtes dans cette situation, vous profitez sur quoi? Le laxisme généralisé.
Quelques minutes pour terminer cette émission, et un sujet qui nous a beaucoup préoccupé aussi ces derniers temps, c'est le sujet des migrants, et ces 200 jeunes migrants qui se revendiquent mineurs, qui ont installé depuis vendredi un campement constitué de tentes devant le Conseil d'État, dans le cœur de Paris, pour réclamer leur prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. Évidemment, dans le quartier, ça ne passe pas inaperçu. Mathieu Rio.
La scène surprend les passants et les touristes venus visiter la capitale. Un camp de fortune de 300 jeunes immigrants installé par plusieurs associations sur la place du Palais-Royal, juste en face du musée du Louvre et du Conseil d'État.
C'est assez surprenant, c'est vrai qu'en sortant du métro, on ne s'attendait pas à voir ça. Je ne vois pas exactement quel est l'intérêt de venir ici en plein milieu, dans le froid. L'idée, c'est pas de les loger ici, c'est clairement de faire une action médiatique.
Mais c'est au moins c'est visible. Si c'est pas devant le Louvre, si c'est au fin fond de la banlieue, personne ne le saura.
On n'est pas choqués. C'est à Munich, c'est à Berlin, c'est partout pareil.
C'est vraiment important que les politiciens fassent plus pour ces personnes.
Dans les environs, certains commerçants sont directement impactés par l'installation de ce camp improvisé. C'est le cas de Thibault, gérant du café Palais Royal. Il assure avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires journalier.
Ça empêche les touristes de venir jusqu'ici, en fait. Vu que le Louvre est juste derrière, le Louvre a fermé ses portes et de ce fait, on n'a pas de retour de touristes.
Les associations qui soutiennent ces migrants l'affirment. Ils resteront sur place jusqu'à ce que l'État leur accorde des hébergements d'urgence.
Votre réaction, Shannon Seban, parce que c'est quand même un haut lieu symbolique de la République, et il y a des tentes avec des migrants qui sont en train donc de camper devant ce Conseil d'État. Ça fait un petit peu désordre, et pour l'image de la France, là aussi, c'est assez dégradant.
Le choix du lieu, le Conseil d'État, est tout d'abord symbolique, et je crois que aujourd'hui, cette image-là qu'on voit et qu'on voit derrière vous d'ailleurs, avec des campements devant le Conseil d'État, ça amène effectivement un signal qui n'est pas très bon. En revanche, ça incite aussi à nous interroger sur la question des passeurs et des réseaux clandestins qui est entretenue par ces passeurs-là. Et dans la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur qui sera portée par Gérald Darmanin dans les prochaines semaines, il y aura une proposition qui sera débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat afin de pouvoir allonger la peine qui sera appliquée pour ces passeurs clandestins, jusqu'à 20 ans d'emprisonnement
bien
pour
sûr,
ces passeurs clandestins.
Mais en attendant, les associations qui défendent ces migrants ont gagné la guerre de la com, la guerre de la médiatisation, en installant des tentes. Et là, on verrait mal des policiers, des forces de police retirer ces tentes manu militari avec les migrants à l'intérieur.
Mais c'est du chantage. Et on voit bien qu'au final, ces tentes-là, par qui est-ce qu'elles ont été installées? Par des associations. Donc on voit bien ici à quel point on a en quelque sorte un marketing de la peur qui est en train de se créer, un marketing de chantage qui est en train de se créer pour faire pression auprès de l'État, devant le Conseil d'État, un lieu hautement symbolique, notamment dans la régularisation des personnes qui cherchent à devenir français ou autres. Donc on voit à quel point les symboles sont présents. Et derrière tout ça se pose encore une fois la question de la peine qui pourra s'appliquer.
Bien sûr, parce qu'on le sait en France, et on va conclure avec ça, Jonathan Sixou, en quelques secondes, quand on est mineur, quand on est migrant, immigré, quand on est mineur, on a des aides, on peut disposer de certaines aides. Là, il faut démontrer que ces jeunes sont mineurs. Or, ils n'ont pas de papier d'identité et toutes les expériences ou les expertises que l'on peut faire ne permettent pas de dire s'ils le sont ou pas.
Il y a
piqué.
Oui, il y a un vide juridique qu'on n'est pas pressé de remplir, vraisemblablement, puisque même les tests osseux ne sont pas sûrs à 100% en la matière. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs pourquoi on n'est pas... un adulte ne peut pas forcer quelqu'un qui se prétend mineur à subir un test, quel qu'il soit, pour prouver ou non son âge, d'ailleurs. Si cette situation, je trouve le ton des associations scandaleux, ces injonctions faites au gouvernement sont anormales, tout simplement. Ces ONG jouent le jeu clairement des passeurs. Elles ont une propagande immigrationniste très claire. Ensuite, pour conclure, je vois à travers ces images une cohérence parfaite avec le pari que entretient Anne Hidalgo pour nous tous.
C'est le mot de la conclusion. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants, Punchline sur CNews avec Mickaël Dorian. Et vous pouvez revoir, comme à chaque fois, avec grand bonheur cette émission sur cnews.fr.